Vous écoutez Logosphère, l'émission de reportages et d'entretiens, de rencontres et de réflexions. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est Logosphère sur les ondes d'univers. Pour cette édition, nous allons à Becherel, à la fête du livre, organisée ces 16, 17 et 18 avril par la Maison du Livre. Nous y avons rencontré Sophie Lanne-Franck, autrice et comédienne pour la compagnie Le Théâtre du Cri, et qui y lisait le texte « Être ou ne pas » dont elle est l'autrice et dont elle va nous parler dans cette édition. Puis nous nous entretiendrons avec André Markovitch, traducteur et poète, qui nous parlera du spectacle « Une révolution au cœur » qu'il a donné avec Christian Olivier, chanteur des Têtes Raides, dans lequel il intervient et nous parlera, en relation avec le thème de ce spectacle, du conflit en Ukraine qu'il chronique actuellement sur sa page Facebook. Vous écoutez Logosphère sur les ondes d'Univers 99.9. Sophie Lanne-Franck, bonjour.
Bonjour.
Alors nous sommes ici à Becherel pour la fête du livre de Becherel organisée par la Maison du Livre. Sophie Lanne-Franck, vous faites partie, vous êtes comédienne, metteur en scène et autrice pour la compagnie Le Théâtre du Cri, c'est bien ça. Et vous venez de jouer à l'instant un texte, une pièce qui s'intitule « Être ou ne pas être ». Tout simplement, est-ce que vous pourriez nous parler nous présenter ce texte que vous avez joué à l'instant, qui clairement parle du monde du travail. Est-ce que vous pourriez tout simplement nous présenter en quelques mots ce texte-ci, enfin cette pièce-là?
Oui, alors « Être ou ne pas », donc c'est le titre, c'est « Être ou ne pas », c'est donc une pièce qui raconte l'itinéraire d'une femme qui avait un bon poste dans une entreprise, probablement manager, ou ça n'est pas dit exactement, mais un poste à responsabilité, et qui dégringole parce que alors elle est très dure dans le travail, elle harcèle les autres, elle est très dominatrice, et il se trouve qu'il y a une petite jeune qui arrive dans l'entreprise et qui est encore plus, encore plus ambitieuse qu'elle. Et la situation se retourne et elle va chuter dans la hiérarchie et traverser un burn-out, quoi.
C'est ça, vous parlez donc du monde du travail. Qu'est-ce que vous cherchez à montrer au public, différentes choses qu'une personne peut traverser?
Alors au départ, la commande de la compagnie, que la compagnie Les Passeurs m'a fait passer, c'était dans le cadre d'une trilogie sur les addictions. Donc moi, j'ai proposé le prisme, l'angle de l'addiction au travail. Donc j'ai essayé de me mettre dans la peau de quelqu'un, mais je crois qu'on peut tous avoir à un moment donné ça dans sa vie, d'une dépendance au travail, de donner l'exclusivité comme ça à un travail qui est, en particulier pour ceux qui font un burn-out, un travail qui les passionne, qui passionne des gens. Donc j'ai essayé de travailler sur cette passion du travail, à quel point cette femme a donné du sens à cette chose-là par rapport à sa relation aux autres, par rapport à l'estime qu'elle a d'elle-même. Mais elle se tient un peu à bout de bras avec cette idée fausse que le travail l'épanouit. Mais c'est une idée très... elle se convainc elle-même de ça, alors qu'en réalité, elle est épuisée, comme beaucoup de gens qui font un burn-out. Et donc, ça va craquer. Donc, j'ai essayé de montrer comment ce processus, en fait, aussi psychologique, qui fait que ce monde un peu autistique qu'elle a créé sur le travail exclusif, comme ça, qui la coupe du monde, qui la coupe de ses émotions, qui la coupe de la nature, qui la coupe de son couple, qui la coupe de toute vie sociale même, va la broyer, en fait, petit à petit. C'est ça qui m'intéressait, de voir comment... Mais pas du point de vue habituel qu'on connaît sur la pénibilité au travail, qu'on peut imaginer par rapport à des gens qui sont dans la douleur physique, dans des horaires. Bon, elle, c'est son cas aussi, les horaires. Mais là, c'était quelqu'un dont on pourrait penser que c'est quelqu'un qui est dans la facilité du travail. Mais j'ai préféré essayer d'être sur le portrait de quelqu'un qui n'était pas une chef d'entreprise, pas non plus quelqu'un qui est vraiment, on va dire, la dernière roue du carrosse, considérée en tout cas comme la dernière roue du carrosse par l'entreprise, mais quelqu'un qui est un peu entre les deux et qui essaye de tenir, parce que j'ai aussi beaucoup regardé des choses, lu des choses sur et rencontré des managers.
Oui, justement, est-ce que vous pourriez nous parler de... Il y a tout un travail que vous avez pu faire, vous-même de recherche pour pouvoir écrire ce texte. Est-ce que vous pourriez nous expliquer donc avec quelle matière justement vous avez construit cette pièce ?
Eh bien justement avec les gens, puisque j'ai eu la chance que ce projet se construise avec quelques entreprises dans la région d'Avignon où on travaillait à ce moment-là. Et donc j'ai été reçue par ces entreprises sur des journées entières où j'ai pu vraiment pérégriner à tous les étages, rencontrer un peu tous les corps de métier, de la comptabilité aux machines, la direction, l'administration, le graphisme, la communication, ressources humaines, tout. Et donc, j'ai pu vraiment écouter des gens, écouter leur histoire, m'inspirer de ce qu'ils avaient vécu. Je leur ai parlé de ça, cette idée d'addiction au travail, en quoi ils sentaient que éventuellement quelle place avait le travail dans leur vie. Voilà, je leur posais vraiment des questions pour essayer de comprendre ce qu'ils avaient déjà, l'histoire de travail qu'ils avaient, parce que aujourd'hui on a des travails, on n'a pas comme il y a encore 100 ans un métier qu'on va faire toute sa vie. Donc quel itinéraire les gens avaient de travail, ce qu'ils avaient rêvé comme travail, ce que leurs parents avaient rêvé qu'ils feraient eux-mêmes. Donc vraiment, comment ça s'est construit aussi et comment ils en sont arrivés à faire ça. Et c'est là que ça devient très intéressant, parce qu'on a aussi tout un historique qui explique des fois que des gens arrivent à un endroit où ils ont toujours rêvé d'être, mais en même temps qu'ils sont épuisés, ou qu'ils sont justement pas du tout arrivés là où ils voulaient aller, mais ils ont trouvé une alternative dans laquelle ils sont coincés. Enfin voilà. Il y a toutes sortes d'histoires qui sont, je trouve, très intéressantes aussi pour raconter la place du travail dans nos vies.
Et justement, l'addiction, parce que c'était le thème, est-ce que vous avez du coup pu comprendre d'où vient cette addiction au travail ? Est-ce
oui.
que vous avez découvert des raisons de ces addictions ?
Ben, moi, je suis pas psy, donc c'est un contexte très compliqué, mais il y a plein de facteurs, c'est sûr, qui isolent les gens et qui font qu'à un moment de leur vie, ils donnent tout au travail et rien ailleurs, et que du coup, ça les met un peu comme ça en face à face avec des difficultés qu'ils peuvent pas résoudre. Et quand ils ont plus que ça, enfin après c'est différent pour tous, mais ça peut s'écrouler. Après j'étais en train de chercher le titre de il y a un ouvrage qui est formidable en plus, qui a été écrit par une psychanalyste ou une psychiatre du travail. Je me souviens plus du titre, mais c'est quelqu'un qui raconte vraiment de nombreuses entrevues avec des personnes qu'elle essaye de soigner, hein, par rapport à des états où, justement, j'en parle dans la pièce, des moments où ils peuvent pas aller au travail, ils tombent. Et ils tombent sur le volant de leur voiture, ils tombent chez eux, d'un coup. Et en fait, avec eux, elle remonte en arrière et elle essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça craque comme ça, pourquoi ils décompensent d'un coup. Donc, en fait, il y a eu des accumulations avant. Des accumulations de non-dits, de frustrations, de choses qu'on demande aux gens de réaliser de plus en plus, avec de moins en moins de temps, par exemple, d'être rentable. Ça, dans tous les métiers, on le voit. Et donc, les gens sont pressurisés. Et quand c'est des gens qui veulent vraiment bien faire, pour plein de raisons, ils ne se protègent pas. Ils veulent absolument y arriver. Et du coup, se brûle.
Vous jouez aussi le personnage d'une femme dans le monde du travail, mais pas que vous abordez aussi dans cette pièce.
Elle est rentrée dans ce métier, elle en particulier, pour la créativité, pour la dimension aussi personnelle et la dimension d'inventivité qu'elle pouvait mettre là-dedans. Et en fait, elle se trouve en face d'un milieu et de gens qui l'utilisent, plutôt que... Voilà, on n'est pas dans un travail épanouissant, on est vraiment dans utiliser les idées des gens, quitte à s'en défaire, garder l'idée et se défaire du corps de la personne. Quoi. Voilà, c'est une instrumentalisation, évidemment, des travailleurs, travailleuses.
Dans le travail d'écriture, comment on passe justement du travail de documentation et d'enquête un peu de terrain que vous avez pu faire dans les entreprises à l'écriture et à l'émergence d'un personnage et d'un spectacle. Comment, on passe de quelque chose de plus ou moins d'une recherche presque sociologique, on va dire,
ouais.
à quelque chose qui est de l'ordre de la fiction.
Alors c'est un long processus, parce qu'en fait le travail des rencontres ensuite je dois le, ben, comme quand on fait de la radio et qu'on garde des morceaux de ce qu'on a entendu, moi je fais un tri, je fais un choix dans ce que j'ai entendu, et puis ensuite je laisse passer du temps quand même. Je regarde ailleurs que ces rencontres, c'est-à-dire que je regarde, j'aime, aussi, m'intéresse, je réécoute beaucoup de podcasts, je regarde des films, je lis des livres, donc tout aussi un univers de fiction qui m'intéresse autour du sujet. Ensuite, je laisse tout ça infuser un peu. Donc moi, j'aime bien écrire sur des périodes, oublier, reprendre l'écriture pour que les choses se déposent. Et ensuite, je tisse les choses entre elles, enfin, où ça se tisse en moi, parce que c'est un mélange de décisions et puis de choses qui apparaissent comme évidentes. Et puis ensuite, quand vraiment là, en l'occurrence, le personnage a émergé, qui elle est et quelle est sa trajectoire, ensuite, je me sers de tout ce que j'ai pour, voilà, pour la nourrir et pour la remplir de chair, cette femme. Et je fais ça avec toutes mes pièces maintenant. Je trouve ça passionnant, le théâtre documentaire de fiction.
Dans vos choix de jeu, aussi, en tant que comédienne, qu'est-ce que vous avez travaillé, alors, travaillé qu'est-ce que, voilà, qu'est-ce que vous êtes allé chercher, construire comme jeu?
Ah, c'est une question difficile parce que bon, moi c'est mon texte, hein, donc j'en connais la dynamique. Ce sur quoi j'ai essayé de bâtir le texte et sur lequel je m'appuie pour travailler dans la lecture là, c'est la relation aux gens qui me regardent, que je prends pour une sorte de comité de direction ou de conseil d'administration. Les gens savent pas qui ils sont, les spectateurs, mais je leur pose toujours des questions parce qu'en fait elle est convoquée. Donc j'ai travaillé sur ça, sur les interrogations, d'attendre des réponses de gens qui ne les donnent jamais. Et du coup, il y a quelqu'un qui avance, qui rame vraiment tout seul, parce que le dialogue n'est pas possible. On voit ça hein, beaucoup avec dans tous les mouvements syndicaux. Très souvent, il y a une impossibilité de dialogue. Donc voilà, moi, en tant que comédienne, je travaille là-dessus sur essayer d'obtenir des choses des gens. Et comme ça ne marche pas, alors d'abord, elle essaie de défendre son bout de gras. D'abord, elle essaie de prouver qu'elle est bien, que c'est un bon produit. C'est terrible, hein, au début, elle se vend comme un bon produit. Après, elle essaie de comprendre ce qu'ils veulent. Après, elle essaie de se justifier. Après, elle s'effondre lamentablement devant eux. Et à la fin, fuck. À la fin, elle dépasse cette situation. Et j'ai essayé de voir comment, voilà, moi, en tant que comédienne, je pouvais, à travers le rapport à cette langue, me libérer, voilà, libérer cette parole qui est très formatée au début. Et comment, voilà, ça s'ouvre, ça se dilate et ça se libère.
Tout simplement, ce spectacle, vous le jouez régulièrement et quels sont les lieux qui pourront être, où les gens pourront voilà, retrouver ce spectacle.
Alors, moi, je ne le joue pas, je ne le fais qu'en... Je le joue en lecture. Mais la compagnie Les Passeurs, donc, qui est dans le Briançonnais, qui a mis en scène ce spectacle, le tourne actuellement. Et donc là, ils ont terminé la première partie de la tournée. En septembre, ils reprennent la tournée alors dans la région de Lyon, dans la région de Grenoble, je crois. Mais il faudrait voilà, se tourner vers le site internet de la compagnie Les Passeurs pour avoir exactement les dates. Mais oui, c'est en train de se jouer dans différents lieux.
Très bien. Merci Sophie-Lane Franck pour donc cet entretien autour de la pièce dont vous êtes l'autrice, Être ou ne pas être. Être ou ne pas.
Oui.
Être ou ne pas, c'est autant ça, pour moi, que vous avez joué aujourd'hui même à Bécherel. Merci à vous.
Merci. Thank you.
André Markovitch, bonjour.
Bonjour.
André Markovitch, vous êtes traducteur et poète, traducteur de littérature russe. En littérature russe, vous avez traduit notamment Dostoïevski, Gogol, Pushkin, oui. Tchekhov, Mandelstam.
Tchekhov avec Françoise Morvan.
Avec Françoise Morvan, Mandelstam, Akhmatova. Vous avez donné tout à l'heure une lecture musicale qui s'intitule « Une révolution au cœur », qui est un projet initié par Christian Olivier, chanteur, guitariste, auteur, interprète. Du groupe Tetraed,
oui.
Et dans lequel vous intervenez, vous participez. Oui. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous parler juste de la genèse?
C'est un projet de Christian, c'est-à-dire que Christian Olivier a toujours travaillé sur la poésie russe, a toujours lu la poésie russe, et à un certain moment, il a trouvé que le temps était venu pour lui de faire un spectacle sur la révolution russe, pour des raisons à la fois personnelles et puis aussi parce que finalement ça s'imposait 100 ans après, quoi. Donc voilà. Et à ce moment-là, il m'a demandé ça m'intéressait de travailler avec lui. Évidemment, ça m'intéresse. Et donc voilà. Et mon travail a été de lui donner des textes, de lui montrer des textes, de lui voilà, d'essayer de lui donner des espèces de voies d'accès à d'autres textes qu'il n'avait pas, et de vérifier aussi certaines traductions qu'il n'arrivait pas à dire, qu'il connaissait les textes, dans des traductions qui existaient, quoi, et dans lesquelles il ne se reconnaissait pas. Et donc mon travail a été de lui de lui faire des mots à mots et de lui dire en russe ces textes.
Alors, vous participez dans ce spectacle, vous-même, vous êtes dans ce spectacle, vous intervenez justement, vous rebondissez avec lui, qui dit les textes en français,
et vous
les dites en russe. Vous restez d'une certaine manière dans ce rôle de traducteur dans le spectacle, et par ailleurs,
alors,
vous expliquez...
Alors pas de traducteur, pas de traducteur, parce que je dis le texte original, oui, traducteur, c'est Christian.
Il y a ce jeu-là entre
oui,
vous deux.
Absolument, et puis d'autre part, je fais des espèces de passages, d'interventions, pas pour expliquer, mais pour raconter un petit peu qui sont ces auteurs, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, etc. Voilà. Et ça, c'est Christian qui a construit ce travail-là.
Alors, ces auteurs, ces poètes qu'on peut entendre dans ce spectacle, Mandelstam, vous parlez, il y a Bloch, Akhmatova. Justement, que disent-ils de cette époque de 1917, de la révolution russe? Qu'est-ce qu'on traverse à travers
Ça, c'est pas une question à laquelle on peut répondre, parce que chacun dit... 1917, c'est la révolution de 1917, c'est une rupture dans l'histoire de l'humanité. Un moment à la fois d'énorme espérance et de catastrophe. C'est-à-dire comment l'espérance... devient catastrophe. Et voilà. Et qu'est-ce qu'on fait face à une catastrophe? Et qu'est-ce que c'est une catastrophe réelle, c'est-à-dire qui prend la vie de millions et de millions de gens? Donc voilà, c'est de la
poésie
et l'histoire. La poésie dans l'histoire. Ce que disait Анна Ахматова, «Я была тогда с моим народом, там, где мой народ к несчастью был», «J'étais à ce moment-là avec mon peuple, là où mon peuple par nature était». C'est ça, c'est la présence de la poésie dans le monde, avec les gens. C'est de ça que parle là.
Vous avez écrit un article dans lequel vous dites que la culture russe est toujours opposée au pouvoir russe.
Alors, c'est pas toujours. Il y a des auteurs qui se sont pas opposés au pouvoir. Mais il y a toute une part essentielle de la culture qui s'est opposée au pouvoir, que le pouvoir a écrasé, comme le pouvoir a toujours écrasé les gens en Russie. Et c'est cette culture-là que j'essaie de défendre. J'essaie de dire que ce qui se passe en ce moment en Ukraine, qui est une abomination, est aussi un crime contre la culture russe. C'est d'abord évidemment un crime contre les gens en Ukraine, c'est l'évidence même, contre les gens, contre le pays lui-même, contre toutes ses infrastructures et tout. Mais c'est aussi un crime contre la culture et contre ces hommes Et ces femmes extraordinaires qui finalement ont donné la vie, leur vie, pour dire que, eh ben pour parler de la fraternité. Voilà.
Vous tenez justement une chronique actuellement, oui. Où vous dénoncez effectivement l'invasion, mais plus largement aussi le pouvoir qui existe aujourd'hui en Russie. Justement, en tant que traducteur de russe, j'imagine que pour vous aussi, ça doit être un grand chagrin et un drame.
Je le vis comme une tragédie personnelle, évidemment. Évidemment. Et comme un combat. Alors, moi, j'ai choisi Facebook pour écrire. J'écris pas que sur Facebook, mais j'écris aussi sur Facebook. Justement, comme un lieu banal, comme un lieu de tout le monde, ce que j'appelle un lieu sans lieu. Un lieu qui me permet d'être libre et d'être absolument. Voilà, de faire comme je veux. Mais, là, depuis le 24 février, je me consacre entièrement à l'Ukraine. Je parle de rien d'autre, ni de nos éditions Mesures, ni de rien. Parce que j'ai comme l'impression que si je parlais de quelque chose d'autre, ça serait, obscène. Voilà.
Dans cette lecture musicale, vous montrez justement l'importance des intellectuels, des créateurs, des artistes, des poètes, des écrivains, pour dire un désaccord fondamental aussi. Vous nous en parliez à l'instant. Qu'est-ce qui fait si peur au pouvoir, justement ?
Ce qui fait peur au pouvoir, c'est la démocratie. C'est-à-dire l'idée que, on peut quitter l'épopée nationaliste, parce que tous les nationalismes du monde entier ont besoin d'une épopée. Hein ? Et c'est l'épopée, ça arrange tout le monde, parce que c'est faux, mais ça fait plaisir d'y croire. C'est ce que Françoise appelle le monde comme si, hein, en parlant du nationalisme breton, le monde comme si. Alors que les gens réels, la vie réelle, ça n'a rien à voir avec l'épopée, à la rigueur avec un poème lyrique. Voilà, la démocratie, c'est le lyrisme face à l'épopée. C'est-à-dire, Tchekhov n'aimait pas Dostoïevski, que pourtant j'ai traduit, mais j'ai traduit que ses romans, pas ses articles. Et Tchekhov disait qu'un écrivain ne doit pas montrer aux gens comment ils doivent vivre. Ce qui est le propre de la dictature. Mais ils doivent leur montrer comment ils vivent. Et le fait de voir comment tu vis, ça c'est le propre de la démocratie.
Très bien. Merci. Merci à vous, André Markovitch, pour donc cet entretien à Becherel, à la Maison du Livre, autour de cette lecture musicale, Une révolution au cœur. Merci.
Au revoir.
Walk a road. Let's walk a road we've never walked before. Let's talk a talk.
Let's talk a talk we've never talked before. Let's make love. Let's make sweet love. Let's make love. Let's make a treat of sweet love.